Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'une des affaires criminelles les plus incroyables du début des années 2000. L'affaire Flactif. Toute une famille, le père, la mère et les trois enfants, assassinés dans leur chalet de la station de ski du Grand Bornan, en Haute-Savoie. Il a fallu des mois d'enquête pour identifier l'assassin, David Autia, un voisin jaloux de leur richesse, qui n'a d'ailleurs jamais vraiment livré lui-même la moindre explication sur son geste. Mais qui, pendant des jours et des jours, avant son arrestation, a paradé avec sa femme devant les caméras pour dire « pique-pendre des morts, pique-pendre des flactifs ». Et je vous ferai entendre d'ailleurs des extraits des nombreuses interviews qu'il a accordées avant d'être interpellé. Vous les avez sans doute déjà entendus, mais je vous jure qu'à les réécouter, on reste absolument stupéfait. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire débute par une scène terrible, car elle met en scène un gamin de 14 ans, Mario. Un samedi d'avril 2003, Mario, dont les parents sont divorcés, vient passer le week-end chez sa mère, Graziella Ortolano. Elle a refait sa vie et ils habitent avec son compagnon Xavier Flactif, dans une station de ski de Haute-Savoie, le Grand Bornan. Et voilà donc Mario, le pauvre Mario, qui débarque pour le week-end en taxi vers 10h du matin. Le taxi s'arrête devant le chalet familial. Il attrape son sac, il descend et il sonne. Pas de réponse. C'est bizarre, mais ils ont dû aller faire une course. Heureusement, le taxi est encore là. Il fait froid au mois d'avril, en altitude. Ça vous embête pas si j'attends au chaud dans le taxi? Je pense qu'ils vont pas tarder. Les heures passent, le compteur du taxi tourne toujours, et maintenant il est 13h. Dites, monsieur, vous pourriez m'emmener au restaurant Le Solaré? Ils y vont de temps en temps, peut-être qu'ils ont oublié que je venais. Mais au restaurant, il n'y a personne, ni Graziella, ni Xavier, ni aucun des trois demi-frères et sœurs du petit Mario. Bon, vient le moment où il faut renvoyer le taxi. Au revoir, monsieur. Je suis désolé, hein. Et en début d'après-midi, Mario trouve refuge chez un ami de sa mère et de son beau-père. Et comme tout ça n'est pas normal, l'ami finit par aller au chalet. Et là, il s'aperçoit qu'une porte-fenêtre est restée ouverte. Alors il entre. Ça alors? À l'intérieur, c'est rangé nickel chrome. Et entre nous, c'est très étonnant. Les flactifs qui vivent là à 5 sont du genre bordélique. Mais à part ça, rien de particulier. Le soir arrive, et Mario, de plus en plus inquiet, appelle sa grand-mère, Vincenza.
Oui, c'est ça, mamie. Ils sont pas là. Ils répondent pas au téléphone. J'ai pas de nouvelles. Et y a personne au chalet depuis ce matin.
T'as raison, c'est très inquiétant, Mario. Faudrait prévenir les gendarmes, non?
Les gendarmes tout de suite pensent à un accident de la route. D'autant qu'on leur raconte que Xavier, en général, conduit très vite, même sur les routes de montagne. Il a peut-être précipité toute sa famille au fond du ravin. Et donc on envoie des patrouilles fouiller les routes alentour. Mais ça ne donne rien. Le dimanche passe, aucune nouvelle. Et le lundi matin, les trois enfants, les trois demi-frères et sœurs du petit Mario, ne sont pas à l'école. Et là, les gendarmes décident de perquisitionner le chalet. Et un truc leur paraît tout de suite bizarre. Il y a une marmite pleine sur la cuisine. Et ils ouvrent le frigo, il est plein à ras-bord. Et puis, les ordinateurs portables sont là, qui traînent. Ces gens-là n'avaient pas du tout prévu de partir. Tout indique qu'ils avaient l'intention de passer le week-end là. Et bizarre aussi, il manque deux couettes sur le lit de Laetitia et sur celui du petit Grégory. Tiens, il manque aussi la voiture, un 4x4 Toyota rouge.
Bon, vous m'envoyez un hélico balisé tous les abords du Grand Bornan. On cherche un véhicule de marque Toyota de couleur rouge. Reçu ?
Reçu.
On envoie aussi des plongeurs fouiller le lac d'Annecy. Rien.
Les Flactifs, Xavier, Graziella et leurs trois enfants, Sarah 10 ans, Laetitia 9 ans et Grégory 7 ans, ont disparu. Quarante-huit heures après leur disparition, le procureur de la République ordonne une deuxième perquisition du chalet. Et là, grosse surprise. Vous vous souvenez des ordinateurs? Eh bien, ils sont plus là. Et il manque aussi des dossiers qui étaient là lors de la première visite. Quelqu'un est entré dans le chalet depuis leur dernier passage. Étonnant! Est-ce qu'il y avait des choses compromettantes dans ces ordinateurs? Est-ce que du coup ils ne sont pas venus les récupérer eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne se sont pas enfouis? Et si oui, pourquoi? Alors on commence à s'intéresser aux affaires des Flactifs. Les Flactifs sont des promoteurs immobiliers et on découvre qu'ils ont des dettes et que par ailleurs, ils n'ont pas que des amis au Grand Bornand. Les gens racontent que ils ont bénéficié de passe-droits pour leur projet de construction, ah oui. Et puis entre nous, ils auraient vendu des chalets sur plan qu'ils n'avaient pas l'autorisation de construire. Rago. Le 17 avril, ça fait 6 jours que les Flactifs ont disparu, les gendarmes reviennent une troisième fois au chalet. Mais cette fois-ci avec des experts. Et au bout d'une heure, les experts appellent leur commandant.
Ça sent pas très bon, hein, chef? On a trouvé des choses inquiétantes.
Ils ont trouvé des traces entre les lattes du plancher. Du sang. Du sang! Et aussi des débris de fer sur le sol. Et un morceau de dent, une molaire d'enfant. Et au pied d'un rideau, une douille de calibre 6.35. On les a tués. On les a tués! Et ça se confirme quand on s'aperçoit qu'une partie du tissu sur le mur de l'escalier a été arrachée récemment et que la moquette de la chambre de l'une des filles a été découpée sur une longueur d'1,20 m. Si vous ajoutez à ça la disparition des deux couettes, on les a tués. On les a tués ici, chez eux. Mais pourquoi? Les gendarmes se lancent alors dans une enquête de voisinage. Et ils ne sont pas déçus du voyage. Ils apprennent d'abord que les Flactifs ne sont pas de là. Ce ne sont pas des Savoyards. Ils sont arrivés il y a 5 ans du nord de la France et du coup les gens du coin ne sont pas tendres avec eux.
Vous voulez mon avis? Ils sont enrichis trop vite, hein. Ils avaient tout, hein. Le bateau, la moto, le 4x4. Et vous avez vu le chalet? Tout est neuf.
Mais en vérité, ce qui les excite beaucoup, les gens, c'est que Xavier Flactif est noir, enfin métis.
Un noir qui réussit en Haute-Savoie, c'est pas bien normal. On n'a jamais vu ça.
L'un des voisins les plus féroces à leur endroit s'appelle David. David Autia, il est passé par Xavier Flactif pour louer son appartement.
Je lui payais un loyer en liquide, comme il me disait tout le temps, à la fin du mois. Et en fait, après, au fil du temps, j'ai su que les propriétaires n'avaient jamais été mis au courant, ne savaient même pas comment je m'appelais, qu'est-ce que j'avais fait dans son chalet, ils ne savaient rien en fait.
Et derrière, la femme de ce David, Alexandra, embraye.
C'est incroyable qu'il puisse y avoir des gens comme ça, hein, qui fassent du mal aux autres parce que lui, il s'en mettait plein les poches. Hein. Je veux dire que le chalet, où est-ce qu'il habite là-bas, c'est quelque chose. Il y a 400 mètres carrés habitables. Un sous-sol, vous pouvez mettre 3 bus dedans, tellement c'est immense.
Cette femme, cette Alexandra, en rajoute encore une couche devant les caméras de TF1. Elle a travaillé pour les Flactifs.
Je ne suis pas restée longtemps, je suis restée une semaine. Hein, parce que c'est un con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, hein, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, hein, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer 3 fois parce qu'il en a rien à foutre.
Et les gendarmes se mettent à fouiller la comptabilité et la paperasse des Flactifs. Et ils découvrent qu'ils ont 70 comptes bancaires, dont certains sont en Belgique et d'autres dans des paradis fiscaux. Et ça se confirme, ils ont des dettes, environ 3 millions d'euros de dettes. Et surtout, la boîte n'est pas au nom de monsieur, elle est au nom de madame. Xavier est interdit de gérer une entreprise. À la suite d'une arnaque qui date de 98 dans le Nord, il a vendu des logements qu'il n'a jamais construits. Si vous ajoutez qu'au Grand Bornand, les ouvriers disent qu'ils ont bossé pour lui, mais qu'ils n'ont jamais été payés, ça en fait du monde qui pourrait leur en vouloir. Et donc l'enquête s'oriente vers les gens du coin. Et là, retour au chalet pour une quatrième visite. Et cette fois, on fait venir les meilleurs experts, les techniciens de l'Institut criminel de la gendarmerie de Rosny-sous-Bois. Ils passent le chalet tout entier au Blue Star. C'est un produit qui fait apparaître, à la lumière noire, des taches bleues fluorescentes, là où il y a du sang. Et il y en a partout. Partout, sur le sol, sur les meubles, sur les murs, sur les tissus. Et la forme des taches montre qu'on a nettoyé, qu'on a lessivé. Le Blue Star révèle 5 zones suspectes. 5. Une par membre de la famille Flactif. C'est un carnage qui a eu lieu ici. Et autant vous le dire tout de suite, malgré la présence de cette douille qu'on a retrouvée sur le sol, vu la quantité de sang et la forme des taches, on ne les a pas tués à coups de revolver ou de carabine, mais sans doute à coups de couteau. De couteau. 5 personnes, dont 3 enfants. Et là, scène surréaliste. Les gendarmes sont en train de ratisser le chalet, centimètre par centimètre, et un voisin est là, comme au spectacle, qui n'en perd pas une miette.
« Ça vous intéresse, qu'on fait dans le chalet ?»« Ah bah oui, je regarde, ça m'intrigue. »
Ce voisin, c'est le fameux David Otia, qui a taillé un sacré costard aux victimes. Lui et sa femme Alexandra ont dit beaucoup de mal des Flactifs à toutes les équipes de télévision qui traînent dans la station. Et il est là au spectacle. Et du coup, en parlant avec lui, on s'aperçoit qu'il est peut-être le dernier à avoir vu les Flactifs vivants.
« Ah bah oui, Monsieur Flactif m'avait demandé un service. Remettre des clés à des touristes qui logeaient dans un de ses chalets. »
Et les touristes en question confirment. C'est bien ce David Otia qui leur a remis les clés.
Mais il y a un truc qu'on a trouvé étrange. Ce monsieur-là, Otia, il nous a pas fait faire d'état des lieux. Et puis le plus bizarre, c'est quelques heures plus tard, il est venu s'installer dans l'appartement d'à côté. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
À force de faire le mariole, ce David Otia est en train de devenir suspect. Il n'y a pas que lui, hein. Les gendarmes sont arrivés à une liste de 7 suspects. Mais lui, c'est le numéro 1. Là-dessus tombent les analyses génétiques réalisées sur les prélèvements faits dans le chalet. Et sans surprise, dans les différentes taches de sang, on a l'ADN des 5 membres de la famille Flactif. Le père, la mère et chacun des 3 enfants. Ils sont bien morts. Mais il y a un 6e ADN. Un ADN masculin qu'on retrouve à 22 endroits différents dans le chalet. C'est sans doute l'ADN du tueur. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Il n'y aura qu'à faire passer un test ADN à chacun des suspects, et on saura. Tous les suspects acceptent de passer un coton-tige dans le creux de leur bouche pour effectuer un prélèvement ADN. Tous, sauf un. Le suspect numéro 1, évidemment. David Otia.
Oh ben non, moi je veux pas. C'est ma liberté.
Les gendarmes parlementent avec lui et il finit par accepter de fourrer le coton-tige dans sa bouche. Le temps d'analyser tout ça, et on saura. Mais en attendant, croyez-vous que cet Otia se tienne à carreau? Pas du tout. Il continue de faire le mariole devant les caméras, ici celle de l'émission 7 à 8 sur TF1. La séquence est absolument surréaliste. Il est filmé devant le chalet des Flactifs.
Toute la longueur, là, c'est toute la salle, ces jours, là. C'est-à-dire, je ne sais plus comment c'est fait, frigo américain, grande gazinière, grande table, une table au moins de 20 personnes, de Louis, je ne sais pas quoi. Là-bas, c'est des fauteuils en cuir, je ne sais pas combien, grand télé, grand écran. Bon, après, ça doit être l'escalier, ou c'est les chambres. Bon, j'ai jamais trouvé de s'y traîner dans les chambres. Non. Mais il me semble que là, dans le coin, c'est son bureau, normalement. Là.
Il est jaloux. Il est jaloux qu'il soit riche et pas lui. Point. Les résultats des analyses tombent le 15 juillet. L'ADN retrouvé en 22 endroits dans le chalet. C'est lui. c'est David Otien. Le salaud, il parade devant les caméras, sourire aux lèvres, ça serait donc lui, l'assassin. Les gendarmes pourraient l'interpeller tout de suite. Avec l'ADN, ils ont la reine des preuves. Mais le but maintenant, c'est un, de retrouver les corps, deux, d'identifier des complices, parce qu'on ne déménage pas 5 cadavres tout seul, comme ça. Et donc, il le laisse libre, mais il le place sur écoute. Et il commence à se rencarder sur le personnage. Ce David Otia vient du Nord-Pas-de-Calais, lui aussi, comme les Flactifs. Son métier d'origine, c'est dépanneur, il serait très travailleur. Et puisqu'on cherche d'éventuels complices, il semble qu'au Grand Bornand, lui et sa femme sont très proches d'un autre couple, les Aremza, Stéphane et Isabelle Aremza, des ch'tis, eux aussi. Et en fouillant dans les fichiers, on s'aperçoit que David Otia et Stéphane Aremza ont un joli passé commun. Vol de voiture, cambriolage, siphonnage de réservoirs d'essence. Alors, est-ce que Stéphane Aremza n'est pas dans le coup lui aussi? Les gendarmes le placent sur écoute avec sa femme. Et un jour au téléphone, ils entendent Alexandra, la compagne de David Otia, dire
« Moi, je suis pas bien depuis ce qui s'est passé au mois d'avril. »
Et là, ils comprennent que le couple Otia se délite. Alexandra sort de plus en plus, seule. Et David est fou de jalousie. Une autre fois, toujours au téléphone, Alexandra met en garde son compagnon au sujet d'Isabelle Aremza.
« David, faut faire attention à Isabelle, hein, avec ce qui s'est passé au mois d'avril. »
Ils sont mûrs, comme on dit. Alors, le 16 septembre 2003, 5 mois après la disparition de toute la famille Flactif, ils s'y mettent à 80 gendarmes pour aller interpeller le couple Otia et le couple Aremza. Au passage, leurs appartements respectifs sont perquisitionnés. Et bingo, chez David Otia et sa femme, on trouve 156 DVD qui appartiennent aux Flactifs. Et 2 téléphones portables qui leur appartiennent aussi. Et des skis d'enfants qui sont ceux des petits Flactifs. Misérable. Misérable. En garde à vue, David Otia, qui a compris qu'il était coincé, se couche tout de suite.
« Je vais vous parler. Je veux soulager ma conscience.
Allez-y.
Je suis arrivé vers 5h30. J'avais sur moi un petit revolver, un 6.35, que j'avais pris au grand-père de ma compagne. Je voulais pas les tuer. C'était au cas où, quoi. Quand je suis arrivé, il y avait que les enfants. Graziella est arrivée 20 minutes plus tard. Et puis après, Xavier est arrivé. J'avais un problème avec lui, un problème de logement. Il me promettait un chalet depuis des années, et il ne trouvait que des studios à me louer. Je lui ai dit ce que j'en pensais. Il s'en fichait. Alors je me suis énervé. Je l'ai bousculé, on a commencé à s'empoigner, j'ai sorti le revolver, le cran de sûreté n'était pas mis, c'est parti tout seul. Il est tombé, je l'avais touché à la tête. Les 2 gosses étaient là, ils se sont levés, ils n'ont pas crié, mais j'étais affolé. J'ai tiré, je sais pas combien de fois. Et ensuite, je suis descendu, et puis j'ai tiré sur Graziella. Elle n'a pas eu le temps de crier, et puis restait la petite Laetitia en haut. Je suis monté, et j'ai tiré.
Et après, monsieur Otia?
Bah après, je me suis mis assis sur l'escalier, pour reprendre mes esprits.
Ensuite, il aurait enveloppé les 5 corps dans les couettes, et il les aurait mis dans le 4x4. Et il serait allé jusqu'à la forêt du roi du Mont pour les brûler.
« Vous pouvez nous conduire sur place ?»« Oui, sans problème. »
Les gendarmes le conduisent sur place, et au bout d'un sentier caillouteux, il tombe sur un tout petit tas de cendres, rien de plus, dans lequel il trouve une douille de 6.35 et une branche de lunettes. C'est tout. Voilà ce qu'il reste de la famille Flactif. 5 petits sachets de cendres que les gendarmes rendront à la famille. David Otia réitère ses aveux presque mot pour mot devant la juge d'instruction. Froid, détaché, sans jamais exprimer un seul regret. Aucun. Donc, si on veut le croire, c'était un coup de folie. Il a perdu pied, il a pété les plombs, c'était presque un accident. Ah bon? Ça n'est pas ce que disent ses amis à Remsa, qui sont en garde à vue en même temps que lui. Eux, ils racontent une autre histoire. David Otia, disent-ils, avait les flactifs dans le nez depuis longtemps. Et ce qu'ils disent est complètement dingue. Otia aurait eu l'idée de tuer les flactifs en regardant un documentaire consacré à une affaire célèbre. L'affaire Stranieri. Alfredo Stranieri est un tueur en série qui, à la fin des années 90, commettait des meurtres selon un scénario absolument unique. Il regardait les petites annonces, il allait visiter une maison et il tuait les propriétaires, il les enterrait au fond du jardin et il s'installait dans la maison à leur place. On l'appelait le coucou parce que le coucou vole le nid des autres. Et on a donc le mobile du meurtre de la famille Flactif. Il les a tués tous les cinq pour s'installer dans l'un de leurs chalets. Il les a tués pour avoir un logement. Dingue, dingue, dingue. Léa Remsa raconte aux gendarmes qu'au début, ils l'ont suivi dans son délire. Et puis qu'au dernier moment, deux jours avant, ils se sont dégonflés. Est-ce qu'on doit les croire? Parce que ils ont quand même donné un coup de main, hein? Ils avouent qu'ils ont participé au pillage du chalet après les meurtres. C'est pas très joli. Et c'est pas tout. C'est Alexandra Lefebvre qui a déplacé le 4x4 la nuit qui a suivi les meurtres. Et c'est Stéphane Aremza qui aurait fourni le gazole pour brûler les corps. De bons amis. Vraiment. Et donc on met tout ce petit monde en examen et on envoie tout le monde derrière les barreaux. Mais quelques temps plus tard, David Otia, qui a assumé les cinq meurtres, fait marche arrière. Devant la juge d'instruction, il se met à raconter une histoire à dormir debout.
« Ah ben en fait, c'est pas vrai ce que je vous ai dit l'autre jour. En vrai, le 11 avril, j'étais dans le chalet du Flactif, chez eux, et là, deux hommes sont arrivés. Ils m'ont assommé, j'ai perdu connaissance, et quand je me suis réveillé, il y avait cinq cadavres autour de moi. » Et vous avez fait quoi? Bah, j'ai fait disparaître les corps en les brûlant dans la forêt, mais c'est eux qui me l'ont demandé, ils m'ont forcé à le faire.
Qui, ils?
Bah, deux hommes. Je connais pas leur identité, je suis même pas capable de les décrire. Mais croyez-moi, j'ai eu peur des représailles.
Baliverne. Baliverne, à laquelle il s'accroche au moment de la reconstitution, il refuse de refaire le geste des cinq meurtres, puisque ça n'est pas lui, puisque ce sont deux hommes qui passaient par là. La juge organise aussi une reconstitution de la crémation des cinq corps. Je vous rappelle qu'on n'a retrouvé que cinq petits sachets de cendres. Ça ne brûle pas comme ça, des corps. Les gendarmes font brûler cinq cadavres de cochons pour en faire la démonstration. Il leur faut 800 kilos de bois pour les réduire en cendres. 800 kilos, presque une tonne de bois. Et David Otia dit qu'il a fait ça tout seul, tout seul. Et que ça a pris une heure. Impossible, impossible. Il avait forcément quelqu'un avec lui. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est Léa Remsa? Ça sera à la cour d'assises de le dire. Leur procès s'ouvre le 12 juin 2006 à Annecy. Le tribunal est en travaux, la cour d'assises s'installe dans une salle des fêtes. Mario, vous vous souvenez de Mario? C'est le seul survivant de sa famille. Sa mère, son beau-père et ses trois demi-frères et sœurs ont été assassinés. Eh bien, il est là, au procès. Il est au premier rang, du haut de ses 17 ans. Il fait face. Et David Otia entre dans le box, voûté, la tête baissée. Vous vous souvenez que pendant l'instruction, il a commencé par avouer et puis qu'il s'est rétracté. Eh bien, pendant tout ce procès, il va s'en tenir à sa dernière version. Celle des deux hommes qui entrent dans le chalet, qui l'assomment, et quand il se réveille, tout le monde est mort. Sa seule erreur serait d'avoir brûlé les cadavres à leur demande. Il ne bougera pas là-dessus, même si personne n'y croit, personne. Et il oblige ses avocats à plaider qu'il est innocent et qu'il faut l'acquitter. Il est dans le déni. Les experts psychiatres viennent dire à la barre qu'on appelle ça un clivage. Quand on ne peut pas assumer ce qu'on a fait, on s'invente une histoire. Et entre nous, c'est le signe d'une dangerosité extrême. Mais est-ce que pour autant il est fou? Pour les psys, non. Pour les psys, il est normal. Et donc au total, on assiste à un procès très frustrant. Enfermé dans son déni, Otia ne peut rien expliquer. On veut comprendre et on n'a pas de réponse. Et on n'en aura pas. À un moment donné, on pense qu'Otia va craquer. Son ami Stéphane Aremza, au bord des larmes, le prend directement à partie.
Mais putain, David ! Dis-le, quoi ! Dis que c'est toi qui as fait ça ! Tu dois le dire !
Assis à côté de lui dans le box, Otia ne le regarde pas. On se dit, il va craquer ! Mais il ne craque pas. La position des avocats de David Otia est très difficile. Leur client leur demande de plaider l'acquittement. Mais ils voient bien que ça ne tient pas debout. Alors ils plaident sur une côte mal taillée. Ils plaident qu'au minimum, il n'y avait pas de préméditation, qu'il n'est pas venu au chalet avec l'intention de tuer. C'est pas facile, hein, de défendre un lâche. D'autant que le verdict ne fait aucun doute, aucun. David Otia est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Sa compagne Alexandra prend 10 ans, l'ami Stéphane Aremza prend 15 ans pour complicité et sa femme Isabelle, 7 ans. Dans la foulée, Otia fait appel, seul. Les autres acceptent leur peine. Mais au début du deuxième procès, Otia fait marche arrière.
Monsieur le Président, j'ai décidé de renoncer à mon appel.
Il a compris qu'on ne le croirait pas plus la deuxième fois que la première. Entre nous, c'est presque un aveu. Et là, la famille Flactif demande.
Est-ce qu'au moins, il pourrait nous dire, ici, maintenant, qu'il les a tués ?
Dans le box, Otia répond, par un sourire, il n'a rien à ajouter.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.